Deux invités, on poursuit ce rendez-vous sur Liberté FM. On va parler du château de Fayolle et de la famille Fayolle en particulier avec Camille Terrade. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiante et référente histoire au château de Fayolle. On va donc en apprendre davantage sur cette famille. Puis à vos côtés, Delphine Wilbert. Bonjour.
Oui, bonjour.
Toujours chargée de l'événement au château de Fayolle.
Exactement.
Et justement, pendant cet été, de nombreux rendez-vous.
Oui, oui, oui. Plein de festivités vous attendent.
Bon, et on verra ça donc en deuxième partie d'entretien. Mais d'abord, Camille, donc, cette histoire de la famille Fayolle, quand est-ce qu'elle commence ?
Alors, il faut savoir que les Fayolle, c'est plus de 1000 ans d'histoire. Ça commence en 987, donc on est à la fin de la dynastie carolingienne, on passe à la dynastie capétienne, et on va voir l'arrivée de Élie de Fayolle qui va débuter la lignée Fayolle.
Donc, il y a un lien avec la Dordogne déjà ou pas ?
Alors, le nom de Fayolle, ça vient du latin fagea, qui signifie étré ou forêt de hêtre. Donc, ça a un lien avec le domaine sur lequel le château est actuellement, puisqu'il y avait une forêt de hêtre.
Parce que le château est beaucoup plus récent que les 1000 ans que vous venez de nous donner là.
Oui, bien sûr. En fait, on commence avec une mode féodale, donc une mode de terre avec une tour en bois au-dessus. Ensuite, on est passé à une forteresse médiévale, donc avec un système défensif, un château médiéval comme on peut en voir dans d'autres villages. Et ensuite, on passe à un château beaucoup plus de plaisance, c'est-à-dire on a quelque chose de pas très défensif, quelque chose plutôt de joli qui permet du coup à la famille de montrer son rang, puisqu'il est quand même assez imposant. Et c'est un château qui date de 1766, avec des réaménagements qui ont été faits entre 1889 et 1895.
Alors on va revenir avant le château actuel, évidemment, au tout début de cette famille qui s'installe donc sur cette motte féodale. Est-ce qu'elle choisit ce lieu par hasard ou est-ce que c'était stratégique ?
Alors, ça je ne sais pas trop. En fait, on pense donc qu'ils se sont installés puisque à la base, ce sont des alletiers, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires de leurs terres. Et donc le but d'installer une motte féodale, c'est de protéger les terres aux alentours, donc les quelques terres qu'ils avaient, puis ensuite ils en ont amassé beaucoup plus. Et donc ils ont dû agrandir leur possession. Mais à la base, ils ont une tour en bois, sauf qu'on sait qu'à l'époque, le bois, ça prend feu. Donc forcément, après, on est passé sur une forteresse médiévale beaucoup plus imposante.
Comment va évoluer cette famille ensuite ?
Donc il faut savoir que les Fayolle, ils sont connus pour plusieurs choses. Déjà, ils se sont énormément engagés militairement auprès du roi de France, avec toujours une fidélité. C'est-à-dire qu'ils ont participé aux croisades, ils ont également participé à la guerre de Cent Ans, aux guerres de religion, et à chaque fois, ils sont fidèles au roi de France. Ça ne bouge jamais, ce qui du coup va leur permettre d'acquérir énormément de prestige et donc des droits que le roi va leur permettre de gagner, comme par exemple le droit de haute justice. Seul le roi peut nommer la famille, comme quoi ils peuvent rendre la justice au nom du roi. Et donc, par exemple, ils pouvaient condamner à mort quelqu'un, ce qui n'était pas pratiqué par les autres familles. Donc voilà, donc ils sont vraiment connus pour leurs engagements militaires. Ils ont un lien très particulier avec l'histoire de France, puisqu'ils ont été amenés à combattre pour le roi de France. Et ce sont aussi des gens qui sont assez avant-gardistes sur leurs idées. Ils sont très érudits, donc ils veulent connaître énormément de choses. On a d'ailleurs une bibliothèque qui recueille énormément d'ouvrages, plus de 10 000 ouvrages, avec plein de disciplines différentes. Donc ça va de l'histoire à de la géographie, de la philosophie, de la mode, de l'économie. Donc c'est vraiment des gens qui sont intéressés par énormément de choses et qui sont très érudits et donc très avant-gardistes sur leurs idées. Notamment, ils ont des idées de liberté et de progrès, ce qui va leur permettre, notamment pendant la Révolution française, d'être épargnés relativement pendant cette période.
Ils ont toujours gardé, même s'ils étaient proches du roi, ce lien avec Fayolle, le château, aujourd'hui.
Oui, en effet. Même s'ils sont avec le roi, etc., ils n'ont jamais voulu...
À la cour. Hein.
Non, ouais, ils n'ont jamais voulu déménager à la cour. Ils ont toujours voulu rester sur leur terre parce qu'ils ont acquis énormément de possessions. Et donc, le roi leur en a donné pas mal. Ils ont failli tout perdre en 1668 parce qu'un des membres va oublier de prêter hommage au roi. C'est une sorte de cérémonie qui est indispensable puisqu'elle permet de reconnaître que les terres qui leur sont données, eh bien, elles appartiennent au roi quand même. Donc ils ont failli tout perdre, mais finalement ils sont restés fidèles au roi Et donc, bah, ça a permis de rester vraiment sur les terres et d'acquérir énormément, énormément de terres.
Mmh. Alors, bien sûr, la famille Fayol, on parle de leur présence à la cour, mais est-ce que la cour s'est déplacée à Fayol à un moment donné ?
Alors ça, c'est une bonne question. C'est vrai que... Alors, on a, j'ai oublié de dire, mais on a perdu une partie des archives pendant la Révolution française, ce qui ne nous permet pas d'avoir autant de détails sur bah, les pratiques, etc., des Fayol. Donc ça, je ne sais pas.
Les documents ont brûlé, là.
Si, oui, on a perdu une grande partie qui ont été brûlés. Alors, je ne sais pas comment ils ont été brûlés, mais, mais ils ont été brûlés pendant la Révolution française. On a eu un prêtre qui a... conserver des documents en lien avec la Fayol, ce qui permet de savoir bah, depuis quand ils sont sur ces terres, etc. Mais c'est vrai qu'on a des interrogations sur est-ce qu'ils ont été à la cour du roi de France, etc. Cependant, on a quand même la société périgourdine qui venait au château de Fayol, puisque quand, on va dire, il n'y avait plus de guerre, etc., c'était vraiment un château consacré aux loisirs, où on pratiquait la chasse, le théâtre, etc. Donc c'était vraiment pour accueillir la société noble périgourdine à l'intérieur du château et profiter, voilà, faire des longues fêtes.
Plus accueillir les locaux, finalement, que la cour.
Oui, je pense que c'était le but, parce qu'ils étaient quand même assez proches de la population de Tocan. Donc c'était vraiment un lien.
Il y a des preuves ensemble. de ce lien donc, entre la population et la famille Fayol.
Oui, on a notamment un livre de raisons qui dit que la population de Tocan, pendant la Révolution française, n'a pas attaqué les Fayol, ce qui est quand même assez étonnant puisque la majorité des châteaux ont été attaqués pendant la Révolution française. Mais on a un livre de raison qui dit carrément qu'on leur déposait de la nourriture pour éviter qu'ils tombent en disette, donc pour éviter qu'ils meurent de faim, puisque c'est pas une période très rigolote pour les nobles. Et donc on leur donne à manger, on est quand même, on les attaque pas pendant cette période.
Et la famille Fayol va traverser cette période de la Révolution donc sans trop d'encombre.
C'est ça, exactement. En fait, il y a juste une petite partie qui va être réquisitionnée en prison, mais ça ne va pas durer très très longtemps. Et en fait, avec leurs idées, le fait que déjà, ils ont des idées assez avant-gardistes, donc forcément, ils ne sont pas inquiétés. Ils donnent également du travail aux paysans, notamment, puisqu'ils ont énormément de terres. Donc forcément, ça permet aux paysans de subvenir aux besoins de leur famille. Et donc, ils ne vont pas du tout être inquiétés pendant cette période un peu... Pas très rigolote pour les nobles.
Bien sûr. Donc, 1000 ans d'histoire pour cette famille Fayol. Est-ce qu'il y a des personnages illustres qui vont se faire remarquer parce qu'ils étaient peut-être proches du roi, proches de la monarchie, peut-être aussi maîtresses du roi ou amants de la reine.
Par exemple, pour la période médiévale, on a notamment Gérard de Fayol, donc en 1351, qui va reprendre la ville de Saint-Astier qui était aux mains des Anglais. Et donc, pour le récompenser, eh bien, le roi va le nommer capitaine de la ville. Alors, c'est pas un titre qui est... c'est juste un titre honorifique, ça n'a pas forcément de valeur. Il va lui donner des terres et il va lui donner justement le droit de haute justice, qui est le droit de rendre la justice au nom du roi. Donc, ça va permettre d'acquérir énormément de prestige. Ensuite, ils ont fait... Je ne sais pas si ça répond à la question, mais ils ont fait énormément de mariages avantageux, puisqu'à l'époque, on se mariait...
Arrangé.
Oui, arrangé, exactement, qui leur a apporté énormément d'argent. Donc ça leur a permis de faire énormément de travaux, par exemple, sur le château. On a très, très peu d'informations sur les épouses, puisque on pense qu'il y a pas mal d'archives qui ont brûlé. Mais on connaît leur nom et leur blason, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et... on ne sait pas exactement. Elles ont eu un rôle. Par exemple, on a l'abbé Alain de Solmignac qui a eu sa fille ou sa nièce a été mariée. Oui, sa nièce.
Ils n'ont pas d'enfant.
Non, c'est vrai. a été mariée au premier marquis de Fayol. Donc ça a permis vraiment une relation étroite entre l'abbé de Chancelade et la famille Fayol. Donc ils ont un peu placé leur pion et donc ils ont eu pas mal d'argent et de prestige qu'ils ont acquis.
Vous parliez d'une pièce de justice tout à l'heure, Camille. Y avait-il une pièce spécifique pour rendre la justice à l'intérieur de ce château de Fayol ou un autre lieu ?
Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que je sais pas du tout. Je sais pas y répondre. Et je veux pas dire de bêtises, donc.
Je couperai. C'est pas grave. Donc, l'architecture du château, vous nous l'avez indiqué, a évolué, hein, bien sûr, forcément, en 1000 ans, parce qu'il y a eu des architectes différents, parce qu'il y a eu des modes et des tendances. Par rapport au château que l'on connaît aujourd'hui de Fayolle, ce sont à chaque fois les propriétaires qui ont façonné ce que nous connaissons aujourd'hui.
Oui, c'est ça, exactement. En fait, on a donc deux styles architecturaux, on va dire. Donc on a le premier, donc en 1766, où en fait on voit que les fenêtres, par exemple, sont beaucoup plus petites et la pierre est beaucoup plus jeune quand on regarde le château. Donc ça, c'est de 1766. Et ensuite, entre 1889 et 1895, il y a eu des réaménagements qui ont été faits par Gérard de Fayolle, qui est le 7e marquis de la famille, et qui a décidé un petit peu d'embellir le château, notamment la façade nord, ce qui est quand même assez particulier, puisque d'habitude, on arrive par la façade la plus belle. Et là, en fait, on arrivait par la façade sud, qui est la façade un petit peu moins travaillée, notamment au XIXe siècle. Donc, il y a eu, voilà, on voit les deux différences en termes de style architectural, notamment sur les fenêtres. La partie XIXe siècle est beaucoup plus arrondie, et c'est beaucoup plus embelli, donc beaucoup plus travaillé sur la pierre.
Les jardins aussi avaient leur importance dans ce château ? Parce que oui. La cour, hein, Versailles, mais il y avait des jardins à l'anglaise, à la française.
Oui, alors souvent, quand on voit ce type de château, on se dit automatiquement qu'il y a un jardin à la française, ce qui est le plus commun ici. Donc un jardin à la française, c'est quelque chose de très ordonné, très symétrique. Ça montre un peu la maîtrise de l'homme sur la nature. Au contraire, au château de Fayolle, on a quelque chose de très moderne. Donc c'est un jardin à l'anglaise. Donc c'est quelque chose où le paysage est assez naturel et sauvage. Et c'est un jardin qui a été fait par les frères Buller. Donc ce sont de célèbres paysagistes qui sont connus notamment pour le parc de la Tête d'Or à Lyon et le parc Bordelais. Et donc au XIXe siècle, ils ont acquis une clientèle assez prestigieuse qui leur a permis de faire énormément de parcs et notamment celui du château de Fayolle.
Est-ce qu'il y a eu une période dans l'histoire de cette famille où la notoriété a été plus importante qu'à d'autres?
Oui, alors notamment à la fin du XIXe siècle. Donc on est avec Gérard de Fayolle, qui est le 7e marquis de la famille. Et lui, c'est quelqu'un de très important pour la famille, qui a énormément contribué à son rayonnement et au rayonnement du château. Donc déjà, il a fait des modernisations sur le château. Il a également été président de la CHAP, la Société historique et archéologique du Périgord, pendant 30 ans. Il a été médaillé de la Légion d'honneur. Il a fait des fouilles archéologiques à Tocane, il a été conservateur dans plusieurs musées, donc c'est vraiment une figure très importante, figure assez intellectuelle, qui a énormément fait et contribué pour la famille.
Très bien, merci beaucoup pour ce condensé, parce que si on veut en savoir davantage, évidemment, on va visiter ce château de Fayolle, où vous nous servirez de guide.
C'est ça, exactement.
À travers les pièces, puisque là, on peut déambuler tout au long de cette visite. Merci Camille pour ces quelques minutes. Et là maintenant, c'est avec Delphine.
Oui.
Parce qu'il y a des événements dans cet été 2026,
oui, exactement,
au château.
Donc en fait, effectivement, le château de Fayolle, il a une longue histoire, comme Camille vous l'a raconté. Mais il y a 2 ans, il a été racheté par un couple de Français, monsieur et madame Mangeret. Et leur souhait, c'est vraiment de rendre le château vivant par des événements et des festivités. Et notamment, l'été, évidemment, c'est la saison où... Voilà, exactement. Donc, vous êtes les bienvenus à la fois pour de l'histoire, parce qu'effectivement, Camille, il y a la visite historique. Donc, c'est quasiment, je crois, tous les jours de l'été. Ou en tout cas, il y a plusieurs séances par jour. Même sur notre site internet, vous verrez vraiment toutes les horaires. Ça y est, c'est mis en ligne, donc vous pouvez d'ores et déjà réserver. Et puis après, on a aussi des visites urbex, donc là, c'est les visites avec le propriétaire, où on va vraiment dans des espaces du château qui ne sont pas encore restaurés. On a les visites plus classiques aussi, où là, c'est libre, donc vous pouvez aussi venir passer la journée à Fayolle et pique-niquer sur site, et puis profiter des espaces extérieurs. Donc on a vraiment envie de développer notamment le parc pour les enfants, le lien avec les animaux. Donc on a tout un programme qui va se déployer l'été à partir à peu près du, on va dire, 10 juillet jusqu'au fin août, des animations tous les étés de 14h à 17h, où les enfants pourront, et les adultes aussi d'ailleurs, ça va être vraiment familial, on va dire, pour tous. Et donc il y a par exemple la découverte du travail du cuir, la découverte de la marqueterie. Donc chaque après-midi, il y aura une animation différente. Donc on est en train d'établir un programme. C'est dense, c'est riche. Il y aura aussi la rencontre avec la marquise, donc un atelier de costumes. Voilà, il y aura plein de petites surprises comme ça. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de faire vivre Fayolle les après-midi, à la fois dans les extérieurs du château et à la fois à l'intérieur, d'initier les gens à la découverte, apprendre quelque chose et en même temps découvrir le château. Et il y aura toujours un lien avec l'histoire de Fayolle, évidemment, qui est une histoire marquée par, on va dire, le... la culture, les arts, les métiers comme ça d'artisanat.
Le plaisir en général, c'est ce que disait Camille.
Le plaisir et la connaissance, aussi, évidemment. Voilà.
Temps fort pour
alors,
cet été.
Alors des temps forts, oui, il va y en avoir. Donc évidemment, on a un énorme temps fort qui est le 11 juillet avec un concert gratuit de Gauthier Capuçon qui vient donc dans le cadre du festival Un été en France. Donc il y a 11 étapes dans ce festival et il y a une des étapes donc, qui se fait au château de Fayolle. On a été choisi pour que Gauthier Capuçon puisse nous offrir un concert gratuit. Donc il y a une première partie avec des jeunes interprètes, et puis ensuite, on a vraiment le concert avec Gauthier Capuçon. Donc c'est ouverture du site à 17h30 et concert à 20h30. Donc nous, on prévoit évidemment plein de restaurations sur place pour que les gens puissent profiter des espaces extérieurs, de la vue sur le château, de la beauté du site, et en même temps, trouver la meilleure place pour profiter du concert. Donc on peut venir avec sa chaise longue ou son plaid. Il n'y a pas de pique-nique sur site possible parce que nous, on a du coup une restauration de prévu. Et voilà, on peut réserver du coup ce week-end. En tout cas, on va mettre en place donc, les réservations. Donc à partir de ce week-end, c'est possible de... Enfin, à partir du 13 juin, c'est possible de réserver. Voilà.
Très bien.
Voilà. Et donc ça, c'est le temps fort du mois de juillet. Et donc, tout le long de l'été, nous avons les guinguettes de Fayolle.
De quoi s'agit-il?
Là, c'est un grand moment, on va dire, pour profiter des soirées à Fayolle, où on va proposer une offre de restauration du terroir, donc plutôt magret, pommes de terre salardaise, voilà, avec un brasero, avec une ambiance souvent musicale. Donc on fait appel à des musiciens locaux qu'on fait venir sur site, et puis on profite de l'ambiance musicale et de manger une belle assiette périgourdine, on peut dire, avec la vue sur le château. Et dans le cadre de ces soirées-là, on ouvre les visites nocturnes, donc spéciales aussi, visites nocturnes qui seront possibles. En fait, dans le cadre des guinguettes, on n'est pas obligé en tout cas de commander son assiette. On peut juste aussi venir pour faire la visite nocturne, boire un verre, profiter de la soirée. Si on a envie, on réserve son assiette, évidemment, son repas. Mais c'est vraiment libre en fonction de ce qu'on souhaite. Voilà.
Et on retrouve tout ça sur le net, les
réseaux. Exactement. Là, sur notre site internet, on a lancé donc, toutes les réservations pour l'été. C'est évidemment mieux pour nous de réserver. On a une meilleure anticipation du nombre de magrets qu'on doit prévoir et des petites pommes de terre. Voilà. Donc, voilà. Et ça, c'est c'est tout l'été, les guinguettes. Ce sera le mardi et le vendredi soir de l'été à Fayolle. Et puis ensuite, au mois d'août... On a le grand spectacle immersif. Ah. Voilà. Donc ça, c'est pour ce sera les dernières représentations du grand spectacle immersif L'ombre de la marquise qu'on a créé l'été dernier. Et donc avec plus de 300 ambassadeurs, on a créé ce spectacle. Et donc ils reviennent, ils sont partants pour une dernière fois marquer l'histoire du château avec ce spectacle où on propose une déambulation dans le site, à la fois extérieur et intérieur, en costume d'époque, avec toute une histoire inspirée de l'histoire des deux Fayolle, et en même temps avec aussi des personnages imaginés, comme Jean Jaurès, comme Louis Jouvet. On n'a pas la preuve qu'ils sont venus à Fayolle, mais on n'a pas la preuve qu'ils ne sont pas venus. Donc j'aime beaucoup imaginer qu'on avait la chance de recevoir à Fayolle des illustres personnages comme eux. Et voilà, et l'idée, c'est vraiment un spectacle immersif qui termine par une garden party, donc a vraiment un temps festif aussi dehors, une ferme reconstituée. Donc voilà, c'est vraiment pour toute la famille et on peut réserver. Donc ça y est, on a mis en ligne, pareil, les billets. Donc voilà, et ce sera les dernières représentations du 1er au 9 août. Donc il faut pas hésiter à réserver ces places.
C'est le même spectacle que l'an passé ou il y a des modifications qui ont
été
apportées ?
C'est jamais exactement le même spectacle. Donc même quelqu'un qui l'a déjà vu, en fait, il faut s'imaginer qu'il y a plus de 80 acteurs sur une représentation. Donc vous le verrez jamais avec exactement la même distribution. Déjà, les costumes, on les a améliorés énormément d'une année à l'autre. Donc il y a aussi énormément de changements. Et puis on a augmenté le nombre de figurants et d'ambiance dans chaque scène. Donc de toute façon, même quelqu'un qui l'a vu, l'histoire est tellement dense, il y a tellement de personnages, il se passe tellement de choses qu'on ne peut pas tout saisir à la première écoute. Et en fait, c'est intéressant, au contraire, de pouvoir... On peut sans problème, même si on va revoir des choses, mais en fait, elles sont de toute façon retraversées.
Parfait. Merci à toutes les deux. Donc, on va conseiller à celles et ceux qui nous ont écoutés d'aller sur le net, de réserver et de découvrir tout le programme pour cet été 2026.
On vous attend avec plaisir.
Merci Camille et Delphine. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.